Vous écoutez
RMC.
Bah moi, les trois points sont quasiment les mêmes que Daniel, que Manu, en fait. C'est la très belle performance des Gunners avec ce symbole de Rice qui n'avait jamais marqué sur coup franc et qui marque deux extraordinaires coups francs, mais c'est surtout la prestation collective qui est sublimissime face à un Real extrêmement pauvre. Mon deuxième point, c'est les stars du Real Madrid complètement absentes du débat. On peut parler de la performance collective, mais c'est surtout les individualités qui, pour moi, ont été absentes dans ce match-là, et notamment sur le plan offensif. À aucun moment on a senti un danger, hormis le face-à-face manqué de Kylian Mbappé en première période. Et la troisième, c'est la belle réaction de l'Inter après avoir concédé l'égalisation dans les dernières minutes du jeu. On sentait qu'ils étaient en ballotage défavorable. Ils étaient acculés sur leur propre but. Et sur une action de grande classe, en deux transitions, ils se retrouvent dans la surface de réparation du Bayern. Bien aidé par un d'ailleurs coupable doublement sur cette action. Mais j'ai bien aimé la réaction des interistes.
Alors, il va falloir que j'éclaircisse un énorme mystère. Pourquoi Declan Rice, donc, c'est son premier coup franc?
C'est deux coups francs.
Ouais. Ok. Je
pourquoi il doit tirer avant?
Non. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Il paraît qu'il s'est inspiré de Jean-François Domergue.
Pourquoi j'étais convaincu au moment où il a frappé? Je dis ouais, mais Declan Rice, c'est un bon tireur de coups francs. J'étais persuadé qu'il en avait déjà marqué. J'avais cette idée en tête que Rice savait tirer les coups francs. Je sais pas d'où je tiens ça. Quand j'ai entendu la stat derrière, j'ai dit, mais t'as picolé ou quoi? Où est-ce que je l'ai vu? Je suis sûr que je l'ai vu tirer au coups francs et que j'ai trouvé que c'était un bon tireur de coups francs.
Et j'ai un quatrième point. Excuse-moi.
Je sais pas, ça doit venir de quelque part.
Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Je peux me permettre un quatrième point? Je présente mes condoléances à Val Kilmer et surtout à sa famille.
Ah oui. Tu sais qu'on a tous pensé à toi, hein.
Moi j'ai pensé à toi.
Oui, parce que je te disais que tu lui ressemblais. Ouais,
c'est vrai, ces dernières années ont été extrêmement pénibles pour lui, donc maintenant rest in peace, comme on dit en Angleterre.
Voilà.
Bon, parlons du Real, les gars, parce que Edgar Grollo est là. On parlera d'Arsenal quand Julien Laurence nous rejoindra tout à l'heure. C'est une déroute. Parce que on va faire une évaluation. Mbappé inexistant, Vinicius inexistant. Bref, il y a rien qui allait ce soir. Et je rappelle qu'il sort d'une défaite en championnat par ailleurs,
contre Valence.
Contre Valence 2-1, je pense qu'il faut séparer le match en deux, parce que je pense qu'en première période, c'est à peu près le match auquel s'attendait Carlo Ancelotti et le match qu'il voulait, parce qu'en fait, il a réussi à aspirer ce bloc et il a réussi parfois à avoir des espaces en contre-attaque, même s'ils n'ont pas réussi à bien exploiter leur situation intéressante. Mais par contre, en deuxième période, il y a un manque d'intensité, ils tiennent plus physiquement, le milieu de terrain s'est fait... laminé par celui d'Arsenal, même au niveau des compos, on se disait que ça allait peut-être se jouer là, et on a clairement vu que ça tenait pas le coup ce soir. Modric et Kamavinga à ce niveau-là d'intensité, l'intensité niveau Premier League. Voilà, Luka Modric est un super joueur, mais on a vu aujourd'hui
le Champions League surtout. Ouais,
voilà. Non, mais d'une équipe, de l'une des meilleures équipes de Premier League, il y a quand même
mais
une Luka différence
Modric, l'histoire c'est que cette année, après tout, il devait pas fondamentalement être titulaire. Il devait peut-être finir des matchs, garder les ballons sur une fin de match. Après, bon, c'est pas la même chose, les matchs de Ligue des Champions et les matchs internationaux. Évidemment, on est tous conscients de ça. La performance accomplie au match aller contre les Bleus était haut de gamme. Mais les Bleus avaient raté leur match et étaient incapables de mettre... Est-ce qu'on s'est laissé abuser à ce moment-là? Modric, qu'est-ce qu'il est encore capable de faire? Et puis, on aime tellement ce joueur, on le respecte tellement pour sa carrière, pour tout ce qu'il a fait, qu'on a du mal à dire « il est fini ». Mais cette année, il devait pas. Si au début de la saison, on dit bon, le Real va jouer un quart de finale de Ligue des Champions, on se dit pas que ça va être avec un Modric titulaire. Ça devait pas être l'idée, non?
Bien sûr. Et normalement, les titulaires, si on nous avait dit un mois et demi, ça aurait été Ceballos et Tchouaméni. Ceballos est blessé. Tchouaméni est suspendu. Tchouaméni, ça va faire du bien au match retour. Je pense qu'il a beaucoup manqué, mais.
On en revient à la remarque qu'on fait tout le temps. Quoi qu'il en soit, par rapport à l'histoire récente du Real, même si ça avait été Tchouaméni, Ceballos, c'est pas assez. C'est pas Real.
Non,
c'est pas Real Madrid, un milieu pareil.
Bien sûr, mais je pense que, sur la deuxième période, il y a rien qui allait au Real Madrid. La défense, le but de Merino, par exemple, comment le gars, il fait un pas de retrait, il a 2 mètres d'avance sur son défenseur, et même les attaquants, Vinicius, complètement disparu. Kylian Mbappé complètement disparu. Rodrigo, j'en parle même pas. J'ai pas en mémoire une action de lui ce soir. C'est quand même assez incompréhensible. Même si ça marche pas ensemble, même s'il y a pas de lien collectif, même si tactiquement ça marche pas bien, t'as des joueurs comme ça qui disparaissent à ce niveau-là.
Moi,
c'est quand
même
dingue.
Je veux bien comprendre le plan qui est, bon, on va attendre un peu, et puis avec les flèches devant, ça peut faire la diff et tout, même si c'est hyper restrictif pour un club comme le Real. Mais au-delà de ça, et puis on se dit tellement qu'ils arrivent à le faire, qu'ils sont capables de faire basculer les matchs, et puis on n'ose même plus les critiquer, parce que comme ils sont à chaque fois capables de nous surprendre, on dit, ah, tiens, la magie Real, ah, tiens, ils vont encore le faire et tout. Mais après, quand arrive un choc comme celui de ce soir, un 3-0 comme ça, t'es bien obligé de dire, mais c'est quoi l'idée,
mais,
quoi.
Excusez-moi, mais
c'est quoi l'idée d'être aligné à 4 au milieu comme ça, avec Bellingham à une place qui lui va pas, Rodrigo à une place qui lui va pas non plus. C'est même pas.
Non mais en fait, il y a une erreur d'Ancelotti.
On comprend.
Laquelle? Mais c'est pas. Et 4 offensifs plus Modric.
En fait,
il n'y a pas d'option. Parce qu'en fait,
parce que ça peut paraître même prétentieux, en fait.
Il y a des options sur le banc, mais il ne veut pas les faire rentrer. Hendrick, il est performant à chaque fois qu'il joue.
Il se retrouve là quasiment tout seul. Il finit avec un carton rouge.
Mais l'équipe est déséquilibrée, justement, parce que tu as 4 offensifs et tu n'as que 2 milieux de terrain avec un Modric qui est très vieillissant, avec l'immense joueur que ça a été. Mais quelles étaient les options sur le banc de touche au milieu de terrain?
Au milieu de terrain, pour le coup, aujourd'hui.
Ouais, mais moi, je redirais ce que j'ai toujours dit. Un coach, aussi bon soit-il, fort tactiquement, dans le management et tout ça, il doit composer avec les mecs qu'il a. Et même Carlo Ancelotti, s'il a Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, il est emmerdé. Il est emmerdé, quoi qu'il en soit. Il sera emmerdé, quoi qu'il en soit. Même si c'est Ancelotti, même si c'est n'importe qui. Pourquoi les coachs qu'on dit de la maison Guardiola ne veulent jamais ce genre d'effectif-là? Parce qu'ils savent que eux, ils ont pas envie de s'emmerder avec les trucs de management, les machins, les égos, les trucs et tout. C'est de toute façon, on le sait, très compliqué. On l'a vu au PSG pendant des années. C'est méga compliqué à gérer. Moi, ce genre
de. C'est surtout l'effectif du Real depuis le début de saison qui est bancal, en fait.
Bah, ouais. Et comme en plus il est bancal, parce que t'as pas des milieux forts, ta défense, t'as un Alaba qui revient de je sais pas combien de mois de blessure, il est à peine sur le retour.
Et tu mets latéral gauche pour la première fois de la saison.
Tu mets latéral gauche, que t'as pas vraiment de latéral droit, que t'es obligé à chaque fois de dépanner entre Valverde, Vasquez et tout. En fait, c'est une équipe du Real qui a quand même été encore championne d'Europe l'année dernière, quand même, quoi. Encore une fois, encore en misant beaucoup sur des individualités, mais à l'époque t'avais quand même Carvajal qui était là, elle était presque un peu plus élaborée, l'équipe. Mais là, il y a plus rien qui est élaboré. C'est, allez-y, roulez jeunesse, et puis on voit comment ça se passe, quoi.
Edgar, Julien Laurence nous rejoint en direct du stade, à Londres. Salut, Julien.
Salut, Gilbert. Salut à tous.
Salut, Julien.
Attends, t'entends dans sa voix qu'il est content, Julien.
Ah, c'est une grande soirée pour Arsenal, forcément.
Ah,
c'est
oui.
Une grande soirée, quelle performance, notamment en seconde période. Mais je suis d'accord avec tout ce que les garçons viennent de dire. J'ai entendu là le passage sur le Real. Sincèrement, au stade, l'impression de déséquilibre d'une équipe qui était complètement qui n'était pas une équipe, en fait, était encore plus flagrante, j'imagine, qu'à la télévision. Sincèrement, moi, la seconde période, je trouve que c'est elle est honteuse de la part du Real Madrid, que tu aies des joueurs comme Bellingham qui soient pas du tout impliqués dans la construction du jeu, comme, par exemple, qui soient complètement transparents. Parce que je comprends bien ce qu'on dit sur l'effectif, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, et les garçons ont raison. Après, je suis désolé, on en parlait un tout petit peu déjà hier avec Edgar sur Ancelotti. Un entraîneur doit quand même faire mieux avec les joueurs qu'il a, même ce soir, même avec les absents, notamment dans la construction du jeu. Et je suis désolé, moi, un joueur comme Bellingham, que tu as dans ton effectif, dont tu ne te sers pas pour construire le jeu, dont tu fais jouer trop, tout ce qu'on lui demandait de faire, c'est des courses dans le vide, vers l'avant, qui servaient à rien, qui voulaient rien dire. Moi, je trouve ça, sincèrement, je trouve ça inacceptable.
Mais ce soir, Julien, regarde le rôle qu'il a, Jude Bellingham, parce que tu te retrouves avec David Alaba, qui est revenu sur une jambe, qui est défaillant un match sur deux depuis qu'il est revenu, qui doit défendre sur Bukayo Saka. Et du coup, tu vois Jude Bellingham, qui était très souvent un contre un défensif face à Bukayo Saka. Et donc forcément, après, qu'il a pas forcément les jambes pour faire des différences offensives. Et d'ailleurs, les seules fois où il était vraiment impliqué offensivement, ça a été parmi les meilleures occasions du Real Madrid. Je pense notamment à l'occasion de Mbappé. Il la met dans le petit filet. Mais le problème, c'est que t'es deux milieux de terrain, t'es deux meilleurs milieu de terrain au Real Madrid, c'est Jude Bellingham, tu lui demandes tout et son contraire. Sa moitié un attaquant, ça doit être un numéro 9, ça doit être un défenseur, un latéral gauche. Et l'autre meilleur milieu de terrain, c'est Valverde. Tu fais le jouer latéral droit parce que ton effectif n'est pas au niveau sur ces postes-là, parce que ce soir, tu as deux latéraux qui sont disponibles, Fran Garcia et Lucas Vázquez, et tu les mets sur le banc. Non pas, et je suis même pas sûr que ce soit une mauvaise idée, c'est juste que ces deux joueurs-là ne sont pas au niveau pour être titulaires en quart de finale de Ligue des Champions.
Et
oui, il y a des blessures, mais
moi je vous répète que si t'as Vinicius, Mbappé, Bellingham, Tu les fais jouer et après tu vas également mettre Rodrigo parce qu'au fond Rodrigo est peut-être le meilleur des quatre, ou en tout cas le meilleur des trois de devant. Enfin, même si Mbappé a trouvé une régularité ces derniers temps, mais se passer de Rodrigo qui est quand même un sacré joueur, tu peux pas non plus. Donc, bah, je répète, t'es obligé d'envoyer ça et de dire, bah, on va voir si ça tourne bien parce que ça a quand même
mais
beaucoup.
Mais t'étais pas obligé de jouer en 4-2-4 non plus.
Mais moi, je pense que tant qu'ils ne reverront pas l'effectif. Et après, attends, pardonnez-moi, hey, on est quand même en train de parler du Real, qui a gagné combien de Ligue des Champions sur les dernières années. Ils n'ont pas non plus un abonnement à vie. Il peut leur arriver, comme il y a deux ans, de prendre une tarte contre City. À l'année d'après, ils regagnent encore. L'année d'avant, ils avaient gagné. Et c'est bon, hein. Ils peuvent aussi.
Là, c'est
peuvent...
sacré tarte.
Bah, alors, et
mais non, c'est pas terminé.
Après, il y a le match retour. Bah, on ne sait jamais ce qui va se passer.
Que ce soit terminé ou pas, je veux dire, ça va. Ils vont pas tout le temps gagner non plus, quoi.
Mais j'ai rarement vu le Real Madrid se faire gifler comme ça.
Hein. Ah, bah, ça leur est arrivé dans leur histoire. Ils ont plus souvent gagné, mais à un moment, on peut aussi tourner une page de temps en temps et voir autre chose. Hein.
Dans un instant, Tony, avec tout.
C'est limite presque que je m'en fous, moi, que Ancelotti ne trouve pas de solution, que les joueurs ne répondent pas et tout. Ça va. Ils gagnent tellement que de temps en temps, on peut passer à autre chose. Hein.